Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Beau et les organisateurs de ce colloque de me faire participer à cette session très intéressante. Alors, comme l'a dit le professeur Beau, j'ai honte, politiste, mais je suis aussi membre du comité d'éthique de la ville et de la métropole de Nice. Et donc, débarquant dans cette institution, j'ai découvert de façon détaillée la masse d'obligations qui étaient faites aux gouvernants en matière de probité, d'honnêteté, d'indépendance, etc. Et tous ces textes qui ont été adoptés à la suite de l'affaire Cahuzac par le président qui se voulait normal et qui a voulu créer un choc de moralisation me paraissent, à côté d'ailleurs de la masse de jugements moraux donnés par les juges dans tous leurs jugements de l'affaire du Premier ministre de Jacques Chirac pour l'affaire des emplois fictifs jusqu'à aujourd'hui l'affaire Claude Guéant, il m'a paru qu'il y avait une sorte de contradiction entre une volonté absolue de moralisation de la vie politique. On a même une loi qui veut restaurer la confiance dans la vie politique et la pratique usuelle des gouvernants et des élus qui est faite le plus souvent d'accords, de négociations, de compromis, parfois de compromissions. Et donc, c'est à ce titre que j'ai essayé de bâtir une sorte d'inventaire des infractions qui sont faites aux règles de probité pour la vie politique de nos gouvernants. Il me semble en effet que Machiavel était beaucoup plus sage que les gouvernants actuels lorsqu'il disait « Il n'est pas nécessaire à un prince d'avoir toutes les bonnes qualités, mais il lui est indispensable de paraître les avoir. » Or ici, on demande plutôt à nos élus d'être quasiment des saints. Il me semble en effet que trois types de comportements contestables peuvent être décelés dans les affaires assez récentes de notre Ve République. Elle concerne d'abord les violations des règles de probité, elle concerne ensuite des infractions aux règles de financement de la vie politique, elle concerne enfin des entorses aux règles de transparence. En ce qui concerne la violation des règles de probité, nous avons quatre affaires qui ont éclaboussé des membres de l'exécutif, l'affaire Karachi, les soupçons de financement libyen de Nicolas Sarkozy, les primes de cabinet de Claude Guéant, enfin, les sondages de l'Élysée dont on a déjà parlé ce matin. Le 8 mai 2002 à Karachi, un attentat fait 14 morts, dont 11 ouvriers français des chantiers navals qui travaillaient à la construction de sous-marins au Pakistan. Longtemps oubliée par l'opinion, cette affaire, vieille d'un quart de siècle, a donné lieu à 18 ans d'investigation, à une mise en examen de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur et de son ministre de la Défense François Léotard. On a découvert que cet attentat serait dû probablement à des représailles du Pakistan contre la décision du président Chirac, nouvellement élu contre son rival Balladur, de stopper le versement de commissions promises par les équipes du Premier ministre pour la vente de frégates à l'Arabie Saoudite et surtout de sous-marins au Pakistan. Déjà, le Conseil constitutionnel avait eu beaucoup de mal à valider les comptes de campagne du candidat Balladur, d'où venaient par exemple ces 10 250 000 francs en billets de 500 francs trouvés sur ses comptes, probablement pas de la vente de t-shirts. Mais à côté des commissions promises aux autorités pakistanaises, l'enquête a débouché sur des soupçons de rétrocommission au profit d'Edouard Balladur du fait des exigences exorbitantes et précipitées de deux intermédiaires, dont Ziad Takieddine, imposés au dernier moment des négociations par les équipes d'Edouard Balladur et de François Léotard. Dans les procès qui ont succédé, en correctionnel, les deux intermédiaires et plusieurs membres de l'entourage du Premier ministre et du ministre de la Défense ont été sévèrement condamnés en 2020. Quant au Premier ministre, devant la Cour de justice de la République et de façon surprenante, il a été relaxé de toutes les charges contre lui, alors que François Léotard a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, plus une lourde amende. Deuxième affaire, l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Selon Mediapart, la Libye lui aurait versé 50 millions d'euros. Il est très difficile d'y voir clair dans cette affaire aux dimensions nationales, internationales. Quand Mohamed Kadhafi et plusieurs membres de son clan ont été tués dans la chute de leur régime en 2011, et surtout du fait des volte-face de Ziad Takieddine, qui a accusé le président Sarkozy, puis s'est retracté avant de renouveler ses accusations. Tous les pourvois de Nicolas Sarkozy et de ses proches ont été rejetés par la Cour de cassation. Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Éric Woerth ont été mis en examen pour toute une série de griefs sérieux, mais pour l'instant, l'affaire n'a pas été totalement résolue. À l'occasion de ces recherches sur le soupçon de financement libyen, les enquêteurs ont découvert dans l'appartement de Claude Guéant, qui était directeur du cabinet de Nicolas Sarkozy quand celui-ci était ministre de l'Intérieur, ils ont découvert de fortes sommes en argent liquide. Malgré les dénégations de l'intéressé, on a découvert qu'il piochait dans les frais d'enquête et de surveillance du ministère de l'Intérieur pour se verser chaque mois des sommes importantes. Vous savez qu'il a été condamné à 2 ans de prison, dont un ferme, plus une lourde amende assortie d'interdiction d'exercer toute fonction. Il est allé en prison, il en est ressorti réellement, récemment. Quant au sondage de l'Élysée, dont on a parlé ce matin, effectivement, selon Anticor et un rapport de la Cour des comptes, des millions d'euros auraient été facturés à l'Élysée pour la réalisation de sondages par les sociétés de Patrick Buisson et Pierre Giacometti en violation de règles de passation des marchés publics. Pour savoir un peu comment fonctionnent les sondages, je me demande, mais sans doute ai-je tort, comment on peut respecter les règles et les délais des procédures d'appel d'offres quand on a besoin d'un sondage pour le lendemain. Mais qu'importe, pour le juge, la présidence de la République n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de l'État, elle devait respecter le code des marchés publics. Et donc, comme il a été dit ce matin, Claude Guéant, Emmanuel Mignon, Patrick Buisson, Pierre Giacometti ont tous été condamnés. Deuxième série d'infractions aux règles de la probité, les infractions aux règles de financement de la vie politique. Ici, deux méthodes peuvent être trouvées. Les surfacturations d'un côté, le recours aux emplois fictifs de l'autre. Pour les surfacturations, Big Malion est évidemment un modèle. On sait qu'une filiale de la société Big Malion a organisé les meetings monstres de Nicolas Sarkozy pour sa campagne de 2012, et que ceux-ci ont explosé le plafond des dépenses électorales autorisées. Pour camoufler et obtenir le remboursement de ces dépenses, l'équipe de campagne du candidat a demandé à Big Malion de maquiller ses comptes par un jeu de fausses factures, et la solution, ça a été d'imputer à l'UMP la différence entre les dépenses réellement effectuées et les dépenses déclarées à l'État pour remboursement. Le Conseil constitutionnel a invalidé les comptes de Nicolas Sarkozy, la fraude a été découverte. Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme pour dépassement du seuil légal des dépenses électorales, mais pas pour la fraude. Pour le juge, il n'était pas prouvé qu'il avait ordonné ni qu'il en avait été informé. 13 personnes, des responsables de l'UMP, des responsables de Big Malion, ont été condamnées à des peines plus ou moins sévères de prison assorties de sursis. Autre exemple de surfacturation, le micro-parti de Marine Le Pen, qui s'appelle Jeanne, avait trouvé une solution astucieuse. Pour les législatives de 2012, Jeanne vendait des kits de campagne aux candidats frontistes auprès de 16 500 euros chaque et leur proposait des prêts d'un montant équivalent à un taux supérieur à ceux du marché. En incluant ces frais d'achat et d'emprunt dans leur compte de campagne, les candidats pouvaient rembourser leurs prêteurs et le Front National pouvait alimenter frauduleusement ses finances. D'où les procès qui s'en sont suivis. On soupçonne la société de Mme Chikirou, Mediascope, directeur de communication de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir elle aussi surfacturé des prestations de sa société aux candidats de la France insoumise pour la campagne de 2017. À côté des surfacturations, une deuxième astuce consiste à recruter des personnes sur des emplois fictifs. Initiée à la mairie de Paris entre 1986 et 1996, cette technique a fait des émules. Le Penelope Gate a montré toute la duplicité de François Fillon, qui détournait systématiquement à son profit les rémunérations de sa femme et de ses enfants pour un travail de collaborateur parlementaire dont la réalité n'a pu être prouvée, d'où les peines sévères de prison et d'inéligibilité, plus d'amende pour le couple qui a fait appel. Récemment, en 2021, Philippe Martin, ancien ministre de François Hollande et président socialiste du conseil départemental du Cher, a été condamné pour la même raison, avoir rémunéré son ex-épouse et une personne travaillant à Auch pour le Parti socialiste sur des emplois fictifs. Au MoDem, ex-UDF, les collaborateurs des eurodéputés de cette formation étaient recrutés par un double contrat, un contrat de travail à temps partiel avec le parti et un autre avec l'eurodéputé. Donc, résident à Paris, comment savoir la part du travail qu'ils effectuaient pour l'eurodéputé à Strasbourg ou pour le parti dans la capitale? D'où évidemment des plaintes qui ont été posées, notamment de la part du Parlement européen, des enquêtes et finalement la démission de Sylvie Goulard, ministre des Armées, François Bayrou, garde des Sceaux, Marielle de Sarnay, ministre des Affaires européennes, et par la suite, la mise en examen de plusieurs eurodéputés et des principaux dirigeants du MoDem. On pense que le Rassemblement national et que la France insoumise ont peut-être eux aussi utilisé cette technique en recourant à des emplois. Enfin, dernière infraction aux règles de probité, les entorses aux règles de transparence. La loi que vous appelez Cahuzac du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique fait une double obligation aux gouvernants: faire une déclaration de patrimoine sous le contrôle de la haute autorité, on en a parlé tout à l'heure, et éviter les conflits et les prises illégales d'intérêts. Sur ces deux points, on a connu un certain nombre d'affaires délicates. En ce qui concerne les déclarations de patrimoine, deux affaires ont illustré la difficulté de cette obligation, l'affaire Delevoye et l'affaire Grisé. Jean-Paul Delevoye, après 2 ans comme haut-commissaire à la réforme des retraites, est entré au gouvernement comme haut-commissaire aux retraites le 3 septembre 2019. Il n'a remis sa déclaration de patrimoine que le 15 novembre 2019, soit 10 mois et 2 jours de retard. Il n'y faisait état que de 3 fonctions, mais la presse d'investigation l'a aussitôt mise en cause. Il n'avait pas déclaré sa fonction d'administrateur bénévole dans un institut de formation aux professions de l'assurance et donc intéressé par la réforme des retraites. Membre du gouvernement, il avait continué d'être rémunéré en tant que président d'un think tank, alors qu'il est interdit au ministre d'exercer une activité professionnelle. Dès lors, après une cascade de révélations par la presse sur ses omissions et ses dissimulations, le 13 décembre 2019, il a rectifié sa déclaration en y ajoutant 10 mandats supplémentaires. Il a démissionné le 16 décembre 2019 en plein conflit social sur la réforme des retraites. La haute autorité l'a signalé à la justice en décembre 2019 et le 2 décembre 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à de la prison avec sursis ainsi qu'à une peine d'amende. Autre affaire du même style, Alain Grisé, ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises, a été mis en cause par la haute autorité pour n'avoir pas déclaré 130 000 euros figurant sur son plan d'épargne en action. Pour le ministre, il s'agissait là d'une simple maladresse sans volonté d'enrichissement personnel. La Confédération de l'artisanat des métiers et des services du Nord qu'il présidait lui aurait, selon lui, confié ses fonds pour qu'il les place sur son PEA et les fasse fructifier. Au reste, disait-il, s'il ne les avait pas déclarés, c'est précisément parce qu'il figurait dans ses comptes comme appartenant à la Confédération. Mais pour le président Migaud de la Haute Autorité, il y avait là une confusion illégale des patrimoines pour empêcher la révélation de faits, je cite, susceptibles d'être pénalement qualifiés d'abus de confiance. Le 8 décembre 2021, M. Grisé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à de la prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité. Il a démissionné, mais il est également poursuivi par TRACFIN, la cellule anticorruption du ministère des Finances, pour abus de confiance aux dépens de la Confédération qu'il préside. Enfin, deuxième obligation prévue par la loi de 2013 concernant l'obligation faite aux gouvernants d'éviter les conflits et les prises illégales d'intérêts. Si un gouvernant est influencé ou paraît l'être du fait d'une interférence d'intérêts privés ou publics avec ses fonctions, il y aura conflit d'intérêts. Ce n'est pas en soi une faute pénale, mais s'il prend je cite, ou conserve un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité, il risque d'être pénalement sanctionné pour prise illégale d'intérêt selon l'article 432-12 du Code pénal. Vu le caractère flou et très extensif de ces définitions, notamment dans leur interprétation par la Cour de cassation, les gouvernants peuvent facilement se voir mis en cause pour conflit d'intérêts ou prise illégale d'intérêts, comme le montrent trois exemples, l'affaire Ferrand, l'affaire Alexis Kohler et, last but not least, l'affaire Dupont-Moretti. En ce qui concerne Richard Ferrand, à peine nommé ministre de la Cohésion des Territoires en 2007, il est accusé par le Canard enchaîné de prise illégale d'intérêts pour une affaire qui remontait à 2011, bien avant son entrée au gouvernement. Sur trois propositions de location de locaux commerciaux, les mutuelles de Bretagne qu'il présidait n'en avaient retenu qu'une, celle d'une société civile immobilière au statut plus ou moins problématique, mais dont la future gérante, et on l'entend dans le privé, n'était autre que sa compagne. Sur plainte d'Anticor pour régularité, suite à une enquête préliminaire du parquet de Brest, Richard Ferrand a donné sa démission en juin 2017. Mais en octobre, l'affaire a été classée sans suite, selon le juge. Les mutuelles de Bretagne n'étaient pas investies d'une mission de service public. L'infraction éventuelle était prescrite. Alors, quelques mois plus tard, et pour passer outre le refus du parquet d'entamer des poursuites pénales, Anticor a déposé une nouvelle plainte, mais cette fois avec constitution de partie civile, en invoquant une infraction dissimulée. D'où l'ouverture par le parquet national financier d'une information judiciaire pour prise illégale d'intérêt. Richard Ferrand a été mis en examen en septembre 2019, mais à la grande indignation d'Anticor, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Douai a décidé le 31 mars 2021 que l'action publique était prescrite. Et donc, M. Ferrand a pu retrouver le perchoir à l'Assemblée nationale. L'affaire Alexis Kohler est un peu plus complexe. Le 4 juin 2018, Anticor a accusé M. Kohler, directeur du cabinet d'Emmanuel Macron quand ce dernier était ministre de l'économie, de prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, corruption passive, pour deux motifs. Il serait intervenu en sous-main auprès de l'État sur le dossier du croisiériste et armateur du porte-conteneur MSC Croisière, sans dire que son propriétaire n'était autre que son cousin, Gianluigi Aponte. Deuxième motif, après avoir siégé comme représentant de l'État au conseil d'administration des chantiers navals STX France pendant 2 ans, il avait pu pantoufler et rejoindre la société MSC Croisière alors que 2 refus lui avaient été opposés au préalable par la commission de déontologie chargée de contrôler les pantouflages. Mais en août 2019, l'affaire a été classée sans suite. Pour le parquet national financier, les infractions suspectées ne pouvaient être démontrées en l'état du dossier. Mais selon la presse d'investigation, le parquet aurait tenu compte d'une lettre du président Macron disculpant M. Kohler de toute faute. D'où des controverses sur cette intervention du chef de l'État et des passes d'armes, notamment avec la porte-parole de l'Élysée. Enfin, dernière affaire, ô combien compliqué, l'affaire Éric Dupond-Moretti, dont on a parlé ce matin. Je reprends les faits. En juillet 2020, Éric Dupond-Moretti apprend que pour identifier la taupe qui renseignait Nicolas Sarkozy, alias Paul Bismuth, et son avocat sur le démêlé judiciaire, les relevés téléphoniques d'une 60aine d'avocats, dont les siens, avaient été dépouillés par le PNF pendant 6 ans. Il porte plainte pour violation de l'intimité de la vie privée et du secret des correspondances et abus d'autorité et dénonce des méthodes de barbouze. Devant l'émotion suscitée par les pratiques du PNF, les fameux filets dérivants, comme on l'a dit ce matin, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a demandé à l'inspection générale de la justice de lui remettre en septembre un rapport sur le fonctionnement de cette enquête du PNF. Mais le 5 juillet 2020, elle est remplacée à son poste de garde des Sceaux par Éric Dupond-Moretti. Il retire sa plainte et on a parlé ce matin de ce décret qui confiait la suite au Premier ministre. En septembre 2020, M. Dupond-Moretti reçoit le rapport demandé par Mme Belloubet, rapport qui concluait finalement à la légalité de l'enquête des magistrats du PNF. Or, M. Moretti a demandé une enquête administrative préalable à des poursuites disciplinaires. Aussitôt, l'Union syndicale des magistrats, le syndicat de la magistrature, deux élus et Anticor ont déposé une plainte pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. M. Moretti a été mis en examen le 16 juillet 2021 et depuis, il est engagé dans une bataille juridique très complexe devant la Cour de justice de la République. Notamment, il est en difficulté avec la commission d'instruction de cette Cour qui a rejeté par deux fois sa demande d'audition de François Molins, qui a un rôle assez particulier puisque procureur général près la Cour de cassation, il est censé y dire le droit, mais il est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, mais il est aussi, d'après la loi sur la Cour de justice de la République, celui qui exerce le rôle du parquet devant cette Cour. Donc il y a là une grande difficulté que Mme Guérin-Barge signalait naguère dans son livre sur la Cour de justice de la République. Au total, pour faire bref, il faut bien reconnaître que les règles de prévention et de sanction des atteintes à la probité et à la transparence fonctionnent. On l'a vu ici, puisque la plupart des cas cités sont des affaires qui sont portées devant le juge. D'autre part, et on le voit bien quand on est membre d'un comité d'éthique locale, le nombre d'entorses à l'impératif d'exemplarité des gouvernants reste faible si on le compare aux 500 000 de responsables publics concernés par les règles de probité. Mais, commises par des personnalités de premier plan, fortement médiatisées, ces affaires ne peuvent, selon moi, que renforcer la défiance des citoyens envers leurs gouvernants. Comment comprendre, par exemple, que François Fillon, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, puisse siéger cette année au conseil d'administration de gros groupes pétrochimiques russes, même s'il a fait appel? Comment ne pas s'étonner d'apprendre que le couple Balkany, condamné à 3 ans de prison pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, ne purgeait sa peine qu'en étant assigné à résidence sous bracelet électronique dans leur manoir de Giverny? En septembre 2019, un sondage ELAB déclarait que 61% des sondés estimaient que les diverses lois de moralisation de la vie publique n'ont pas amélioré la transparence ni restauré la confiance dans la vie politique. Dans le sondage Eurobaromètre de la perception de la corruption en France de 2020, 70% des sondés estiment que la corruption est fort répandue en France. 41% pensent même qu'elle a progressé depuis 2017. Enfin, dans le dernier sondage du baromètre de confiance de Sciences Po Cevipof Opinionway de janvier 2022, 75% des sondés estiment que notre pays a perdu sa boussole morale. Liée à la progression inquiétante de l'abstention, cette forte défiance des citoyens ne laisse guère augurer d'une reconnaissance par les Français de l'exemplarité de leur gouvernement. Je vous remercie.